Merci d'écouter RFI. 3h à Kiev, 20h à Washington.
Mathis Limano.
L'accord sur les minerais ukrainiens quasiment scellé. C'était un point saillant de la guerre en Ukraine. Le riche sous-sol du pays convoité par Donald Trump. Après plusieurs revirements, d'abord des demandes trop gourmandes des États-Unis, puis des invectives par médias interposés entre les deux dirigeants. Volodymyr Zelensky est attendu vendredi à la Maison-Blanche pour signer l'accord avec Donald Trump. À suivre, la Syrie et son économie qui respire de nouveau après la levée des sanctions européennes. Le contact est rétabli avec la Banque mondiale, on y vient. Au GIEC, l'absence remarquée des scientifiques américains. Et puis en Indonésie, le gouvernement remporte son bras de fer avec Apple. Dictateur sans élection, je ne vais pas signer ce que 10 générations d'Ukrainiens devront rembourser. Après plusieurs passes d'armes entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, l'Ukraine et les États-Unis auraient trouvé un accord sur la question des minerais ukrainiens. Depuis plusieurs semaines, le président américain exigeait que Kiev cède ses ressources minières afin de compenser les milliards de dollars d'aide versés par les États-Unis. De son côté, le dirigeant ukrainien espérait obtenir des garanties américaines fermes en termes de sécurité. Mais Nicolas Rocca, les deux camps auraient fini par trouver une solution et pourraient signer l'accord dès ce vendredi, d'après différents médias.
Pas de mention des 500 milliards de dollars de Donald Trump, ni de garantie sécuritaire pour l'Ukraine, mais un fonds conjoint. Washington aurait fini par céder sur le chiffre avancé par le président américain, qui souhaitait garantir 500 milliards de dollars de revenus à son pays dans l'exploitation des minerais, mais aussi du gaz et du pétrole ukrainien, inacceptable pour Volodymyr Zelensky. Plusieurs médias, dont le Financial Times ou l'économique Pravda ukrainien, assurent avoir consulté une version de l'accord. Les deux pays collaboreraient ensemble dans le développement du lithium, du titane ou bien du graphite dont regorge le sous-sol ukrainien grâce à un fonds conjoint. Autre victoire ukrainienne selon cette version de l'accord, les ressources déjà exploitées par le gouvernement de Kiev, notamment en pétrole et en gaz, en seraient exclues. En revanche, pas d'engagement américain clair sur des garanties de sécurité espérées par l'Ukraine. Volodymyr Zelensky doit se rendre ce vendredi à Washington pour signer l'accord et entamer le réchauffement de sa relation avec Donald Trump.
Le programme exact du président ukrainien à Washington pas encore dévoilé, tout comme les détails du projet d'accord. Et toujours dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, deux chercheurs du Centre National de la Recherche Scientifique, le CNRS, ont reconnu être à l'origine du jet d'engins explosifs sur le consulat général de Russie. Ça s'est passé lundi à Marseille, dans le sud de la France, le jour du 3e anniversaire du début du conflit. Sous la supervision des médiateurs au Caire, Israël et le Hamas sont parvenus à un accord en vue de la libération des prisonniers palestiniens. Ils devaient être relâchés la semaine dernière et sont plus de 600 à attendre leur libération en échange des corps de 4 otages israéliens. Des échanges qui doivent se dérouler de manière digne et privée, a exhorté le comité international de la Croix-Rouge en charge du transfert des otages. Par ailleurs, des responsables israéliens ont affirmé dimanche que l'État hébreu envisageait une prolongation de la première phase de la trêve, objectif ramener les 63 otages vivants et morts encore dans la bande de Gaza, tout en repoussant pour l'instant des discussions sur l'avenir de l'enclave. RFI en Syrie, il est 4h passé de 3 minutes et alors que le gouvernement a salué la levée des sanctions par l'Union européenne sur des secteurs clés de l'économie syrienne, le dialogue a repris avec la Banque mondiale après 14 ans de suspension des relations. L'institution financière entend aider à la reconstruction du pays et soutenir le redressement de l'économie. Myriam Berber.
Pour reprendre la coopération, la Syrie propose la formation d'un comité conjoint entre le ministère de l'économie et la Banque mondiale. La démarche de ce comité devrait s'articuler autour de 3 grands axes. D'abord, déterminer le type de projets qui seront financés. Ensuite, accorder des prêts aux industriels pour qu'ils puissent reprendre leurs activités. Enfin, travailler sur la création d'un fonds d'investissement pour soutenir l'industrie. Les besoins du pays sont énormes. Le PIB syrien a chuté de 85% depuis le déclenchement du conflit en 2011. Plus des 3/4 des infrastructures pétrolières et gazières sont détruites. L'agriculture est également en ruine. La guerre a en effet endommagé les circuits d'irrigation. Autre marqueur de la crise, la monnaie s'est effondrée. Quant à l'inflation, elle atteint des sommets autour de 120%. L'État syrien arrive à peine à fournir de l'eau et de l'électricité quelques heures par jour. Des conditions de vie insoutenables pour les habitants. Aujourd'hui, 90% de la population vit sous le seuil de pauvreté.
Et ce mardi, deux frappes israéliennes se sont abattues dans le sud de Damas, visant, dit l'État hébreu, des dépôts d'armes, forme d'avertissement après que dimanche, le premier ministre israélien a averti qu'il ne tolérerait pas le déploiement de forces syriennes dans la zone. Une forme d'avertissement qui a coûté la vie à au moins deux personnes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Des menaces israéliennes condamnées par le pouvoir syrien lors de la conférence du dialogue national qui se tient en ce moment. Des manifestations anti-Israël ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays. Et Donald Trump poursuit sa croisade contre la science climatique. Après avoir retiré les États-Unis de l'accord de Paris, son administration a interdit aux scientifiques américains de participer à la réunion du GIEC, ce groupe d'experts intergouvernemental qui se rencontre cette semaine en Chine. Et les enjeux sont importants. Il s'agit de décider du contenu et de la date de publication du prochain grand rapport du GIEC, sorte d'état des lieux des connaissances scientifiques sur le réchauffement planétaire. Mais autour de la table, pas de scientifiques américains donc. Stéphanie Schuller.
Réunis à Hangzhou, en Chine, les scientifiques venus de plus de 190 pays ne peuvent que constater que les sièges réservés à leurs collègues américains restent vides. Parmi les climatologues interdits de voyage se trouve Kate Kelvin, scientifique en chef de la NASA, qui devait co-présider le groupe 3 du GIEC dédié à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Selon Sébastien Treyer, directeur de l'Institut du développement durable et des relations internationales, le retrait des Américains ne devrait pas affecter la rédaction du prochain rapport du GIEC.
On va s'appuyer beaucoup sur les publications scientifiques déjà existantes et là, tout ce qui a été produit par la science américaine va être disponible et ça, c'est le plus important. Pour remplacer les gens qui ont pris des responsabilités dans l'organisation du GIEC, à mon avis, on pourra se substituer.
Le processus d'écriture du rapport durera au moins 3 ans et les scientifiques fédéraux américains n'auront donc a priori pas le droit d'y participer. Mais rien ne dit que l'administration Trump ne réapparaîtra pas sur la dernière ligne droite pour entraver la validation du rapport du GIEC avant sa publication.
Stéphanie Schuller. La réunion placée en alerte orange ce mercredi à l'approche de la tempête Garance. Elle devrait frapper l'île française de l'océan Indien vers 14h heure locale. Garance, qui pourrait s'intensifier en cyclone, est une menace importante et sérieuse, mettent en garde les météorologistes. À peine ramené en France, Mohamed Amra est mis en examen. Le fugitif le plus recherché du pays a été présenté à un juge d'instruction qui l'a mis en examen pour meurtre, tentative de meurtre, vol et évasion, le tout en bande organisée. En mai dernier, celui qu'on surnomme la mouche s'était échappé de son transfert pénitentiaire grâce à l'attaque d'un commando. Deux agents avaient été tués. Après 9 mois de cavale, il a été interpellé ce week-end en Roumanie. 24 complices présumés étaient toujours en garde à vue ce mardi. RFI en Indonésie à présent. Le gouvernement indonésien a remporté son bras de fer avec Apple. La vente d'iPhone 16, dernier modèle de smartphone de la firme à la pomme, était interdite dans l'archipel. Interdiction désormais levée suite à un accord. En échange, Agnieszka Kumor, Apple s'est engagé à investir 1 milliard de dollars dans le pays.
Le bras de fer du gouvernement indonésien avec Apple aura donc duré 5 mois. Le protocole d'accord devrait être signé cette semaine et le permis de vendre iPhone 16 devrait suivre. L'offre d'un milliard de dollars d'investissement couvre notamment l'installation d'une usine sur l'île de Batam. Elle devrait produire des appareils permettant aux utilisateurs de suivre leurs bagages ou animaux domestiques lors d'un voyage. Le géant américain promet aussi des formations en recherche et développement sur ses produits. De quoi rassurer le gouvernement indonésien qui voulait inciter le groupe à investir davantage localement. Selon le gouvernement, Apple n'avait à ce jour investi que 95 millions de dollars en Indonésie. L'accord est présenté comme une victoire du président Prabowo Subianto, mais le géant américain gagne aussi un accès à un énorme marché. Le pays compte 278 millions d'habitants, dont plus de la moitié à moins de 44 ans.
Le pape a repris le travail depuis sa chambre d'hôpital. François a signé des décrets de canonisation, dit le Vatican, qui précise que son état de santé reste critique, mais ne se dégrade plus. À 88 ans, le souverain pontife est hospitalisé depuis le 14 février pour une pneumonie. Et puis, on connaît le départ du Tour de France 2026. Un contre-la-montre au cœur de Barcelone, ont annoncé les organisateurs ce mardi depuis la capitale catalane. Ce sera la première fois depuis 2019 à Bruxelles et la première fois de l'histoire pour une première étape, qu'un chrono collectif sera au menu du tour. RFI, il est 2h10 à Paris.